Bienvenue dans La Voix au chapitre, le podcast médiéval et littéraire animé par Marielle Avesco et Anaïs Guiraud. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Mariella.
Comment ça va ce soir?
Eh bien écoute, ça va très bien, froidement. Ici, l'hiver est presque re-arrivé après un automne plus que doux, c'est qu'à le dire. Donc voilà, on retrouve le coin du feu, le vin chaud et bientôt les fondues.
Ah, c'est ça. Puis le plaid, moi, que j'ai sur les genoux là, parce qu'effectivement, chez nous aussi, ça a bien fraîchi. Bon, ce soir, on va aborder un sujet un peu moins fun que d'habitude, un sujet un petit peu plus lourd. On va parler de personnages et d'un mode de vie qui est assez peu connu sur la période médiévale, en fait, qui est assez peu, dont on parle assez peu. On va parler des recluses. Des recluses, un mode de vie qui est particulier, qui est souvent essentiellement féminin. Enfin, du coup, on va développer un petit peu ça. Est hérité de l'érémitisme, en fait, hein, qui vient
tout
du
à
coup
fait.
des premiers ermites. Enfin bon, on va tout développer, mais voilà, on va aborder ce sujet un petit peu particulier et ces personnages méconnus mais qui pourtant avaient une importance au Moyen-Âge. Voilà, donc, eh ben écoute, c'est parti.
C'est parti.
Donc, comme je le disais, les recluses sont des personnes, souvent des femmes, très très souvent des femmes. Alors moi, dans mes petites recherches, j'ai vu que ça pouvait être aussi des hommes, que du coup, il y avait eu des reclus hommes.
Alors en fait, les reclus hommes, bah, comme tu l'as dit très bien en introduction, bah, ça va être plutôt des ermites.
Oui, c'est
Et
ça.
Effectivement, la différence avec l'érémitisme, c'est vraiment pour moi le côté citadin absolu des
C'est ça.
recluses. Donc les recluses sont dans la cité au Moyen-Âge et les ermites, eux, sont plutôt à l'extérieur de la cité. Eux, ils sont vraiment reclus, mais
Dans la
retirés
nature plutôt.
dans la nature, retirés du monde, alors que la recluse, elle est vraiment enfermée au sein de la cité. Et c'est vraiment ça pour moi la différence entre les deux
Puis
mouvements, en plus du fait que les recluses sont souvent pas associées à une communauté religieuse, alors que les ermites sont souvent quand même reliés à la communauté religieuse. Donc c'est aussi
Et
pour moi cette différence.
une autre différence pour moi aussi, c'est que les ermites sont plutôt autonomes et autosuffisants, alors que les recluses, elles dépendent de la solidarité et de la charité
Charité.
chrétienne,
Exactement.
enfin du coup de la ville. Elles sont vraiment
Complètement.
des personnes qui sont incluses dans la ville et leur survie dépend en fait de la charité des gens de la ville, quoi. Ça, c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui est hyper important entre les deux,
Ah,
même
tout à
si
fait.
ça provient un peu de la même origine, en fait, c'est-à-dire du coup de s'isoler du monde, quoi, pour mener une vie de prière, une vie dédiée à
Exactement.
la.
Dédié à la prière, dédié à Dieu, en fait. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, tu l'as très bien dit, dont on parle assez peu et qui est assez peu étudié. Moi, en dehors de la très, très grosse étude qui est faite par Paulette Lhermitte-Leclerc, qui est un peu la base, qui est une historienne, et qui a vraiment fait cette étude sur les recluses, et je crois également Anne Brenon, qui a fait une série d'articles, hein, pas forcément une thèse sur les recluses. Il y a assez peu d'études complètes sur la recluse. Alors, le dossier de la thèse de l'ermite Leclerc est vraiment très complète, donc c'est ça qui est bien, mais elle parle aussi de l'érémitisme en plus des recluses. Et c'est pareil en littérature, c'est pas une figure qu'on
Non,
aborde énormément.
c'est
J'ai
vrai
trouvé
ça.
assez peu de romans qui abordent la recluse. Alors, il y a un roman qui s'appelle Du domaine des murmures,
Ah oui, je l'ai vu
qui
celui-là.
effectivement qui parle des recluses. Et on cite très souvent Notre-Dame de Paris, où
Oui, c'est ça,
effectivement, il y a
dans
tout un
Victor
chapitre,
Hugo.
voilà, qui est consacré par Victor Hugo à la recluse qui était visiblement accolée à Notre-Dame. Et pourtant, c'est des figures au Moyen-Âge qui sont incontournable, on l'a dit, des villes en fait, et qu'il y en a dans toutes les villes.
C'est ça, il y en a dans toutes les villes, grandes et même plus modestes, en fait. C'est
Bien
quand
sûr.
même chaque ville quasiment à sa
À sa
recluse, quoi.
recluse, tout à fait.
Et c'est vrai que moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est assez fascinant et en même temps assez difficile à comprendre de notre point de vue de contemporain, en fait. C'est vrai
Complètement.
que même si on peut être croyant, enfin c'est vrai que c'est étonnant de se dire qu'on change de vie. En fait, c'est ça. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une recluse? C'est une femme. Alors, on va revenir là-dessus, mais en général, c'est des femmes qui, du coup, vont se retrouver un petit peu emmurées, en fait, hein. Elles vont être dans des
Ah
petites,
bah,
oui, c'est ça.
carrément emmuré en
Voilà, c'est ça.
fait.
Dans des petites,
Carrément emmuré.
dans des petits endroits. Ça peut être des tourelles. Ça peut être sous un pont. Ça peut être dans des,
On
tu sais,
appelle ça
sous.
le reclusoir, en
Voilà,
fait,
le
hein. Donc, c'est
reclusoir ou
vraiment
des petits reclusoirs.
dédié à la recluse. On en parlera peut-être un peu plus en détail après, parce qu'il y a des règles assez précises en ce qui concerne la forme et la situation du reclusoir aussi. Mais c'est vrai que bah, on dit beaucoup que l'origine, pour revenir à ça, c'était les premiers ermites. Donc, notamment, ben, je crois que c'est Antoine le Grand. Alors, ce n'est pas Saint-Antoine de Padoue, hein, c'est un autre Saint-Antoine, qui a été un des premiers ermites connus. On dit que lui, il aurait carrément passé 15 ans dans un tombeau dans le désert en Égypte.
Oh
Et
la
ce serait
vache.
un peu le premier recus ermite qu'on connaît. Mais au Moyen-Âge, c'est vraiment à partir du Xe siècle que le mouvement des recluses va se développer. Et surtout, on va les retrouver beaucoup, beaucoup au bas Moyen-Âge. Et c'est un mouvement qui va jusqu'à la Renaissance. Hein. Donc, c'est un
Ouais, c'est
mouvement
ça.
qui vraiment suit toute la période du Moyen-Âge. Comme on le dit à chaque fois, le Moyen-Âge, ce n'est pas une seule et unique période. Hein. C'est très,
Ben,
très
c'est
long.
quand même extrêmement vaste.
Exactement. Et les recluses, eh ben, c'est un phénomène qu'on va retrouver de bout en
Tout au
bout.
long du
Et
Moyen-Âge.
voilà, exactement. Et qui est vraiment intimement lié à la société médiévale qui est donc bah, régie par la religion chrétienne et à la cité médiévale, au développement de la cité. Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est cet accompagnement aussi de ce mouvement de femmes donc, qui s'enferment, qui quittent le monde, on
Oui,
va
c'est
voir
ça.
dans
C'est
quelles
une sorte de
conditions,
mort au monde, hein, de toute
de
façon.
mort au monde complètement et qui se dédient à la prière, mais alors c'est vraiment quand même dans un cadre très spécifique de protection de la cité
Voilà, c'est ça,
dans
leur
laquelle
rôle.
ils sont, quoi. Voilà.
Leur
C'est
rôle
vraiment
et
ça.
leur dévotion, hein, c'est ça, c'est la prière pour protéger la cité, protéger des attaques, protéger des
Des
épidémies, des
inondations, voilà, des
inondations et des choses qui
épidémies.
pourraient frapper la ville.
Exactement.
Et en échange, c'est vrai que c'est la ville qui va la nourrir, la loger, enfin, l'entretenir ou la soigner, et qui l'enterre aussi, parce que du coup, ben, en
Qui
fait,
l'enterre aussi.
une recluse, elle se reclut dans son reclusoir jusqu'à sa mort, en fait,
Jusqu'à
hein.
sa mort, et en fait, elle est même dans son tombeau, puisque à la mort de la recluse, on détruit le reclusoir et elle est enterrée dessous. Hein. Elle est enterrée sous les ruines. Elle n'a même pas une sépulture différente, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée de mourir au monde totalement, tout en restant ben, vivante, mais en n'étant plus du tout participant
Oui, c'est ça.
de ce monde, en fait.
C'est ça qui
Donc,
est
pour.
complètement
Ouais,
étrange.
c'est vrai que c'est ça qui est difficile à comprendre. Alors après, il n'y a pas, on va le redire, la recluse n'est pas forcément attachée à une communauté religieuse. Très souvent, ce sont des femmes, on l'a déjà
Des
dit, on va y
laïcs.
revenir, et des laïcs, effectivement, des laïcs qui choisissent. Alors, je crois que c'est très important d'insister pour ceux qui écouteront cet épisode sur la notion de consentement. Ces personnes sont totalement consentantes. Alors après, il y a des circonstances qui font qu'elles choisissent ce mode de vie, mais c'est un mode de vie qui est choisi. Toutes les études sont quand même assez claires là-dessus. On ne force pas les personnes à entrer en réclusion, on ne force pas les femmes à adopter le reclusoir. C'est vraiment un choix de
Oui,
vie, alors qui est
même
poussé
si
peut-être
après
par
quand
des
même,
circonstances,
oui,
mais
voilà, c'est ce que
voilà.
j'allais dire, c'est que
Mais
souvent
ça
ces
reste un
femmes qui
choix.
choisissent ça, qui choisissent cette voie-là, souvent c'est quand même des femmes qui ont une vie compliquée, quoi, ou qui les circonstances de leur vie, voilà, les amènent à choisir cette solution
Ben
un
ouais.
petit peu radicale, quoi.
Ben c'est ouais, ça va vraiment dépendre ben, des femmes déjà et puis aussi de la période. Mais vraiment, à un moment donné, c'est une solution en fait pour des femmes qui sont alors très souvent des femmes qui sont veuves, parfois
Des veuves,
jeunes,
ouais, c'est ça.
ou des religieuses. Ou alors des femmes qui ont envie de rentrer en religion, mais elles ne peuvent pas rentrer en religion pour de deux choses assez simples. Un, au Moyen-Âge, il n'y a pas beaucoup de monastères et de couvents pour femmes. Il y en a très, très peu. Donc, les places sont très, très réduites. Et deux, ben, ça coûte cher. En fait, il faut
Oui, c'est
payer,
ça,
hein,
il faut
pour
avoir une
rentrer.
dot en fait, un peu comme pour le
Exactement.
mariage, c'est qu'il faut avoir une
Exactement. Il faut
dot.
apporter sa dot, il faut payer son entrée en religion. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, elles vont choisir ce moyen gratuit, hein, finalement, de rentrer en religion par ce moyen-là, même si elles ne sont pas effectivement reconnues comme nonnes ou comme sœurs. Hein. C'est vraiment très différent. Ça peut être aussi des femmes qui ont été répudiées, des femmes qui ont souvent perdu un
Oui, c'est
enfant
ça.
et qui ne peuvent plus concevoir. Et on a aussi des cas, bien, comme Marie de Sabran, qui est une recluse parisienne assez connue, qui entre à 15 ans en réclusoire parce qu'elle ne voulait pas se marier, donc avec l'homme que son père avait choisi pour elle. Et elle a préféré rentrer dans un réclusoir donc du cimetière des Innocents à Paris, qui était un grand cimetière du centre parisien où il y avait plusieurs reclusoirs où les recluses étaient accolées au cimetière et elles vivaient là. Donc
Mais
c'est
je
vrai
lisais que ça
que
pouvait être aussi des anciennes prostituées, des
tout à
femmes
fait,
du coup de
des
vie,
repentantes.
des repentantes en fait, oui. Voilà, des circonstances de vie qui amènent à soit choisir effectivement, enfin comme tu disais, des femmes qui ont finalement la vocation mais qui peuvent pas entrer au couvent, soit des femmes qui ont eu des vies compliquées, voilà, et qui se retrouvent, voilà, qui ont envie de dédier leur vie à ça. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de rappeler que c'est quand même enfin, que c'est un consentement et qu'on ne va pas emmurer une femme, voilà, c'est
Vivante
pas quelque chose de
de
barbare, quoi.
force. Non, non, de force. Et surtout, ça n'aurait eu aucun sens puisque les recluses étant les sentinelles spirituelles de la cité, c'est vraiment ça, hein. On l'a dit, elles sont vraiment donc situées, on va situer le reclusoir dans des lieux stratégiques, hein, j'ai envie de
Stratégique.
dire. Donc voilà, soit accolé à l'église, soit au rempart de la cité, soit sur un pont. Moi, c'était comme ça que j'avais connu le mouvement parce que j'ai visité la cité de Saint-Flour, une très belle cité médiévale qui se trouve dans le centre de la France et qui a encore, alors je ne sais pas s'il est d'époque, mais qui a encore en tout cas l'endroit où il y avait le reclusoir sur le pont.
T'en avais mis une dans ton livre, du
Oui,
coup, dans
ben
ton
c'est
roman,
celle-ci
hein,
en
c'est
fait. Ouais,
celui-là.
dans les Mirages de Terre Sainte, la recluse de Saint-Flour tient un petit rôle, effectivement. Et donc c'est vraiment sur un pont, sur voilà, un endroit comme ça, parce qu'elle a ce côté de sentinelle contre la maladie, contre les épidémies, contre les inondations. Donc à Saint-Flour, il y a vraiment ce pont et tous les bas-quartiers étaient régulièrement inondés. Donc elle avait un peu, on lui conférait un petit peu ce pouvoir hein, de préserver la cité par sa prière, par sa force spirituelle. Hein. Une femme comme ça inspire quand même du respect. On se dit que
Ben oui.
vraiment, il y a quelque chose qui était fort chez elle et c'est vraiment une gardienne. Alors, je crois que c'est Paulette Lhermitte-Lecaire justement qui fait ce rapprochement avec les Vestales romaines. Et c'est vrai que ça
Oui,
ressemble quand même
c'est
beaucoup
vrai.
à
Alors,
ce
j'avais
côté-là.
l'entretien, enfin,
Alors,
un peu comme on garde le feu de la
oui,
cité, mais oui, tout à fait.
exactement. Hein, comme on garde le feu de la cité, et si le feu s'éteint, eh ben, il va y
La
arriver une
cité est
catastrophe.
perdue. Ben
La
oui.
cité est perdue. Voilà, si on fait du mal à la recluse ou si malheureusement elle vient à disparaître ou à ne plus être là, eh ben, il peut arriver des malheurs à la cité. Donc c'est quand même aussi une figure qui est respectée et ça va ressortir par la cérémonie d'entrée de la recluse au reclusoir.
Bah, je disais qu'on en avait aussi bah, près des hôpitaux aussi et
Oui.
des léproseries. Je pense que enfin ça dépend justement. Mais il y a des villes, moi dans mes recherches, là je lisais que notamment par exemple à Rome, on en comptait 260.
260
Donc
pour 400 religieuses à peu près.
c'est quand même fou,
C'est énorme.
hein. Moi je pensais pas en fait. Je pensais pas on pouvait avoir dans certaines villes autant de recluses. C'est pour ça que je voulais donner le chiffre quand même pour donner. Alors, ça dépend
Tu as
évidemment
tout
de la
à fait
taille de
raison.
la ville. Là on parle de Rome, mais c'est vrai que on peut avoir vraiment plein de recluses dans une ville postées à des endroits différents, stratégiques, comme tu le disais, soit à des entrées, soit à des endroits voilà, près
Oui. Eh
des
bien, au cimetière
ou
des
des lieux
Innocents,
religieux.
à Paris aussi, voilà, elles étaient vraiment accolées au muret du cimetière. Hein, donc, il y a vraiment un grand. Ce cimetière des Innocents, bon, c'était le plus grand cimetière de Paris. Il était à peu près à l'emplacement aujourd'hui de Châtelet-Les Halles. Donc on voit l'espace, il y a encore la fontaine hein, qui est visible. Et bien entendu, elle a été détruite hein, parce que c'était une horreur. Mais elles étaient jusqu'... Donc il y avait quatre réclusoirs. Et alors là, c'était même des réclusoirs assez importants puisqu'elles pouvaient vivre parfois à deux dedans.
Oui, j'avais vu ça
Donc
aussi,
c'est...
effectivement. Mais moi, j'ai complètement découvert ça. Enfin, tu vois, je me disais, OK, une recluse, mais je pensais qu'il y en avait une par ville. Ou... Mais non, en fait, dans
Non,
certaines
non.
villes, on peut en avoir vraiment
Ouais,
beaucoup.
plusieurs. Plusieurs, plusieurs.
Et c'est vrai que du coup, ça donne l'ampleur, en fait, de ce mouvement, enfin, à quel point ça pouvait
Oui,
être
puis ça
important pour la
me...
cité, quoi.
Oui, puis ça concerne de ce que j'ai moi aussi vu et lu, vraiment toutes les cités. Enfin, on a des recluses, notamment en Allemagne, mais on en a à Toulouse, on en a à Nîmes, on en a à Paris, on en a à Lille, on en a à Bordeaux. Enfin, il y a vraiment des... À Lyon,
Oui, à
il y a
Lyon.
vraiment des recluses partout. Et comme tu dis, dans des villes bah, voilà, qui peuvent être plus modestes. Alors, Saint-Flour, à l'époque, c'était un gros centre parce que c'est le centre de la France et il y a une énorme cathédrale. Je crois que c'est pareil au Puy-en-Velay. Mais oui, il y a vraiment des recluses dans toutes les villes, quoi. Dès qu'il y a vraiment une ville, bah, il y a souvent, très souvent, une recluse qui va avec, quoi.
Voire
Quelque
plusieurs.
part. Voire plusieurs, selon la taille de la ville.
Voilà. Qu'est-ce que je lisais d'autre, effectivement? Donc après, on imagine bien que ce sont des petits reclusoirs très sommaires, très très
Voilà.
sommaires, plus que
Ouais.
sommaires, avec une petite fenestrelle. Ça, je pense que du coup, pour qu'on s'imagine les choses, voilà, une toute petite fenêtre qui donne sur l'extérieur et qui sert de passage, en fait, ben, pour la nourriture ou pour les vêtements, j'imagine aussi.
Tout à fait. Puis le bam, le l'aisance, hein, le
Oui,
seau d'hygiène, hein.
pour vider effectivement les vaisseaux. Mais voilà, elle
Alors à
vit
peu
dans
près,
le total, quoi.
alors ben ça dépend de la période une fois de plus. Donc au tout début, effectivement, elles vivent vraiment dans le dénuement. Elles sont dédiées à ça. Donc comme tu disais, la cité, les gens la prennent en charge. Donc elle va vivre essentiellement de la charité, hein, parce qu'il faut bien qu'elle mange. Il faut savoir que la durée de vie à peu près, elle est située entre 3 et 5 ans, hein, à peu près, de la recluse à partir du moment où elle s'enferme. Donc le
C'est dingue.
reclusoir, il fait vraiment quelques mètres carrés. Enfin, alors il n'y a pas de règles, il n'y a pas vraiment de règles, ni pour réguler la vie de la recluse, même s'il y a ce qu'on appelle des ordos. Hein, donc il y a essentiellement des religieux qui ont donné quelques règles. Donc elle ne peut pas travailler, elle doit être chaste, elle n'a pas le droit de trop parler, elle ne fait pas vœu de silence, mais c'est plutôt implicite qu'elle doit un peu pas
Bah, elle n'est pas
parler.
là pour faire la
Elle
conversation,
n'est
quoi.
pas là pour voilà discuter, etc., etc. Voilà, il y a un certain nombre de règles. Et ensuite, il y a vraiment des règles. C'est vraiment plutôt des règles, un peu comme les règles monastiques qui s'attachent à la vie pratique. Et donc, il y a cette idée de donner des règles de construction du reclusoir. Donc, à Saint-Flour, par exemple, c'est hyper précis. Il doit faire 2,07 m sur 2,07 m. Ça veut dire que la recluse peut pas se tenir debout.
Ah, c'est
Enfin, elle peut se tenir
ça.
debout, mais elle peut pas se coucher.
Oui, allongée, ouais, c'est ça.
J'ai lu aussi le témoignage donc d'une recluse de Venise très célèbre qui s'appelle Bisina. Alors elle, le reclusoir, il était accolé à la basilique Saint-Marc et il devait être aussi grand qu'elle. Les bras tendus, ça faisait la taille du reclusoir.
D'accord.
Voilà.
Ouais, donc tu peux même pas
Donc
marcher dans ta petite pièce en fait, hein,
c'est
c'est
vraiment c'est très petit en tout cas au début. Il y a vraiment
tu
ce côté
t'agenouilles
très petit.
et puis
Tout
voilà quoi.
prix, quoi. Voilà, hein, de toute façon, c'est là pour ça. Donc, la fenestrelle est assez haute, comme tu as dit. Donc, c'est cette petite fenêtre qui est la seule ouverture assez haute pour que la recluse voie le ciel et rien d'autre à peu près. Hein. Elle n'a pas le droit de voir les gens, elle n'a pas le droit de voir la ville, la cité. Enfin, voilà, il faut imaginer, elle voit un carré de ciel et c'est tout ce qu'il y a, sauf pour celles qui sont accolées à l'église, qui ont une deuxième ouverture qui s'appelle l'agioscope et qui donne uniquement sur la vue de l'autel de l'église.
D'accord.
Et par là, elles vont aussi recevoir la communion.
Ah oui, ok.
Voilà. Donc il y a vraiment, selon la disposition, là aussi, il y a des petites différences, mais en gros, c'est hyper sommaire, c'est une fenêtre à barreaux et c'est une très petite pièce. Ça, c'est vraiment au Moyen Âge, quand c'est un peu le début du mouvement. Elles sont vraiment, bah oui, très pauvrement dotées, hein, voilà. Bon, si les gens lui leur donnent pas eau et pain, elles mangent pas, hein, faut être clair. Donc elles vivent essentiellement de la charité. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi de dire que l'entrée vraiment de la recluse dans le réclusoire, c'est dédié, il y a une cérémonie qui est dédiée. Alors, je
je
me
l'ai
souviens
vu
que
ça aussi.
ça m'avait frappé à Saint-Flour, parce qu'il y a vraiment, alors là, il y avait vraiment visiblement un très, très, très fort sentiment pour la recluse, hein, elle était très, très honorée. Donc, déjà, la recluse de Saint-Flour, très spécifiquement, quand elle entrait en réclusion, non seulement elle était prise en charge, mais toute sa famille était prise en charge. Ils étaient dotés, en fait, hein, on leur donnait de l'argent pour bah, les remercier, en gros,
Bah,
de
pour les
sacrifier
remercier
une
d'avoir donné
fille.
leur fille, quoi.
Une femme, voilà, ou leur mère, ou leur sœur, enfin, voilà, quelqu'un qui prenait le relais. Et donc, on faisait une grande messe. Alors ça, c'est pour toutes les recluses. On fait une messe qui est une messe, en fait, de requiem. Hein, donc, c'est une
Mais
messe de mort.
c'est ça que moi j'avais noté, c'est qu'en fait c'est
Oui, c'est une
vraiment
messe de requiem.
symbolique de la mort,
De
c'est-à-dire que
la
c'est
mort, oui.
vraiment une messe de mort avec bah, le rituel habituel d'une messe qu'on peut donner quand quelqu'un bah, est mort, quoi. Donc
Exactement.
je trouvais ça extrêmement frappant de lire ça. Je ne m'y attendais pas
Oui,
et ça veut dire ce que ça
donc
veut dire de toute façon.
totalement. Donc on lui remet lors de cette cérémonie bah, sa gonnelle, donc sa robe hein, un petit peu qui ressemble à la robe d'une nonne, un voile. Elle a droit à un petit trousseau comme ça et puis pas grand-chose d'autre. Après ça va changer. Hein, il y aura des trousseaux qui seront beaucoup plus conséquents, mais là c'est un tout petit trousseau. Et donc quand elle rentre dans le reclusoir, elle s'allonge par terre si elle peut à peu près. Et le prêtre, l'officiant, l'ecclésiastique va lui jeter une poignée de terre dessus. Comme
Ah
il le
oui,
ferait
comme il le
pour
ferait
quelqu'un
pour
qu'on met
un
en
qu'on
terre,
met
en
en
fait.
terre.
Hein. Exactement. Et donc, après, il mure le reclusoir. Donc, le reclusoir est muré. Il n'y a pas vraiment de sortie possible, on comprend bien. Alors, la seule exception que j'ai trouvée, c'est effectivement cette Bisina de Venise, qui, elle, avait carrément quand même négocié le fait de pouvoir sortir, je crois, une fois l'an. Pour entendre la messe de l'Ascension à Saint-Marc. Mais
Ah
de
oui.
nuit, hein, fallait pas qu'on la voie, donc c'était que de nuit. Et voilà, elle avait le droit de sortir uniquement à ce moment-là. Sinon, en général, on ne sort pas du tout du
Ah
réclusoir,
oui,
hein,
non, c'est
jamais.
ça. On
Voilà.
meurt dans le réclusoire, donc.
On meurt dans le réclusoir, sauf il y a eu, je crois, une ou deux exceptions, mais dans ce cas-là, c'est le pape qui doit carrément donner une autorisation à la recluse de sortir. Et la seule que j'ai trouvée dans ce cas-là, c'est Sainte Colette de Corbie en Italie. Donc là aussi, j'ai l'impression qu'en Italie, c'était un peu plus souple, parce que Bisina à Venise, voilà, elle avait un peu négocié le truc. Sainte Colette a réussi à sortir, visiblement. Mais bon, il fallait quand même que ça soit le pape qui dise
Oui, c'est quand
là, elle
même
peut
une mesure
sortir.
exceptionnelle, quoi.
Tout
Mais
à fait.
t'imagines, ça donne le nombre de femmes quand même qui ont été recluses, parce que si elles ont une durée de, enfin, une espérance de vie entre 3 et 5 ans, et qu'on en a pas mal dans la ville, enfin, ça veut dire que quand même, ils avaient, enfin, il y avait quand même beaucoup de femmes qui
Ah,
acceptaient
puis,
de dédier leur vie à
oui,
ça.
je crois même qu'il y avait des listes d'attente, en fait,
Ah
pour,
bon?
les, pour certaines, certains reclusoirs qui étaient très prisés. Alors, c'est vrai que j'ai vu plusieurs enquêtes, donc dans le sud de la France, toujours pareil, hein, je me rattache à Paulette Hermite-Leclerc, ceux qui souhaitent plus de détails pourront aller voir sa thèse. Donc, c'est en 1380, dans les villes du sud, il y a un peu un ordo, enfin une règle un petit peu plus conséquente qui va réguler la vie des recluses. Et notamment, on va commencer, il y a tellement de candidates qu'on va commencer à faire des enquêtes de moralité pour
Ah oui,
les accepter, en fait.
pour faire une sélection, en fait.
Exactement. Donc, du coup, bah, d'un coup, c'est plus n'importe quelle femme qui peut être recluse. Donc, on sent quand même qu'il y a une pression sociale et il y a beaucoup de
Non,
candidates,
puis
quoi.
que
C'est
c'est
quand même...
fortement que c'est une position
Qui est
fortement
prisée,
demandée,
qui
qui
est
est prisée.
fortement demandée. Oui.
Bah
Et
ça
donc,
pareil, ça m'a étonnée de.
c'est fou, hein. Ouais.
Oui, ça
Nous,
paraît fou.
forcément, nous, ça heurte nos convictions aujourd'hui de femmes libres, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment comprendre ce phénomène comme un moyen pour certaines femmes de certaines classes sociales, de certaines, voilà, comme tu disais, qui ont eu des vies peut-être parfois bouleversées, etc., comme un moyen vraiment d'acquérir la paix, en fait, d'être
Oui, c'est
tranquille et qu'on
ça.
vienne pas te demander de te coller un mari ou autre chose dans les pattes, quoi,
Et puis
quand
d'avoir
t'en
une
as
vie
plus envie, quoi.
consacrée, en fait, une vie
Voilà,
consacrée,
exactement.
d'avoir sa place au ciel. En fait, c'est ça qu'on s'imagine aussi moins dans nos sociétés plus athées, en fait. C'est que gagner sa place au ciel, c'était quand même à l'époque
C'est
du Moyen Âge
hyper important.
hyper important. Enfin, donc, et que
Totalement.
toute la vie du Moyen Âge était réglée par rapport à la vie
À ça.
religieuse. Hein. Donc c'est vrai que
Mais ce phénomène-là, je crois qu'il est, ouais, il, comme tu dis, il est hyper représentatif. Et donc, à partir de 1380, donc elles ont droit aussi à une servante
Ah oui.
et à un homme du bassin. Donc, c'est l'homme qui est chargé de faire aussi la quête un petit peu autour du reclusoir, pas juste au-dessus pour l'entretien de la recluse. Et elles vont même, à partir du 14e, notamment en Italie et dans le sud de la France, toucher une rente. Donc, elles vont toucher un peu de sous pour bénéficier bah, de tous les soins, donc notamment le barbier. Voilà, les vêtements, comme on l'a dit, sont fournis par la ville. Et parfois, il est vraiment le trousseau va devenir de plus en plus important. Et notamment, on a le testament de Alix la Burgotte, qui était une recluse du cimetière des Innocents à Paris et qui est décédée en 1466. Donc là, on est à la toute fin du Moyen-Âge. Et donc, on nous dit le 28 juillet 1466, Maître Robert Perrier, prêtre chapelain de l'église des Saints Innocents, Michel Le Borne, tondeur de draps, et Jean de Saint-Jean, tailleur de robes, demeurant à Paris, sont nommés comme exécuteurs du testament de la défunte sœur Alice la Bourgotte, en son vivant recluse dans la dite église, donc à l'église des Saints Innocents, et confesse avoir fait délivrance audit marguillier, donc les marguilliers c'était ceux qui s'occupaient de la recluse, de la maison qui appartenait à la dite défunte, où elle souhaitait habiter et demeurer jusqu'à sa mort. Et ensemble, lui ont donné donc ses bonnes heures à fermoir d'argent. Donc, c'est en fait ses livres de prière
Les
avec
livres de
donc,
prière, oui.
fermeture
D'accord.
en argent. Sa chapelle garnie de calices, nappes, messelles, chasubles et reliques, et généralement tous les résidus de ses biens. Donc, Alix la Burgotte, elle avait beau être recluse, elle avait
Elle avait des
pas mal
petits.
de biens quand même.
D'accord.
Et on voit que ces cellules des Saints Innocents, elles étaient quand même un peu plus conséquentes, puisqu'on dit qu'elle avait une chapelle. Ou un oratoire, hein, on ne va pas exagérer, elle n'avait pas une chapelle, voilà. Mais elle avait un petit oratoire, certainement, en plus de sa pièce où elle pouvait, en gros, vivre, dormir, manger, etc. Et donc, une pièce où elle
Moi,
allait
j'avais lu,
prier,
oui.
quoi.
J'avais lu quand même que certains, que certaines, et je pense effectivement que c'était sur la fin du Moyen-Âge, effectivement, qu'on pouvait avoir presque deux pièces.
C'est ça.
Mais ce qui est quand même autre que quand on est juste debout et qu'on peut, tu vois, juste mettre les mains autour de soi. Et... Parce que moi, ça me paraît quand même complètement insensé, enfin fou quand même qu'on ne puisse pas s'allonger. Ou enfin, parce que, voilà, tu vois.
2,07 m sur 2,07 m, c'est pas bézef, hein.
Non, 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 tu peux pas beaucoup t'étendre quand même. C'est vrai que, hein. Mais bon, du coup, j'avais lu la
Un
même
lit,
chose, qu'il
quoi.
y en avait
C'est
qui
un
étaient
grand
quand
lit.
même un petit peu plus meublés, enfin qu'il pouvait y avoir un petit tabouret, un oratoire,
Oui, un
et
oratoire, certaines cheminées, donc voilà, parce qu'on a des offrandes qui sont faites par des donateurs, hein, des bienfaiteurs, et on a des témoignages d'offrandes de bois, donc ça veut dire de bois de chauffage, donc ça veut dire qu'elle pouvait quand même se chauffer avec soit brasero, soit cheminée. Donc oui, sur la fin, ça devient
un
un petit
petit
peu
peu,
moins sévère,
oui, c'est
voilà, on va
ça.
dire.
On gagne un petit peu
J'ose pas
en
dire
confort,
cosy,
mais bon, c'est
mais
comme
voilà.
ça, ça reste sommaire, quoi.
Voilà, exactement. Je trouvais pas de terme sympa.
Est-ce que tu as des informations sur la fin de ce mouvement, toi, et comment
Alors, c'est vrai que comme c'est une figure extrêmement populaire, mais qui échappe quand même au giron de l'Église, hein, puisqu'on l'a redit, elles ne sont pas rattachées à des communautés religieuses. L'Église va commencer quand même au XIVe et au XVe à pas mal grincer des dents sur les recluses. Il y en a plusieurs qui vont être suspectées d'hérésie,
Oui, c'est ça.
et il y en a d'autres qui vont être carrément suspectées de totalement autre chose. Donc on a quand même des témoignages de recluses qui vont se mettre à donner des conseils.
Ah oui.
Donc, à être très en lien avec la population, à se poser en conseilleuse, en directrice de conscience. Hein, il y en a qui vont vraiment aller dans ce sens-là. Et même des visionnaires ou des exaltés, etc. Donc, ça va commencer à sentir un peu
Ah oui,
le
ça
soufre.
sent le roussi vis-à-vis,
Ouais,
on
ça
passe
sent
vers la
aussi.
voyance ou le, enfin,
Voilà, enfin, oui. Plus
la
ouais,
dit,
le mysticisme, on
le
va dire vraiment
mysticisme.
le mysticisme, et d'autres vont même devenir carrément des relais d'informations tout au sein du royaume, parce que donc on l'a dit, bah, les recluses, il y en a partout, il y en a dans toutes les grandes villes, et elles peuvent quand même parler aux gens. Donc, si elles se mettent à se poser en conseillère et à dire, oh là là, mais le roi, il devrait pas faire ça parce que Dieu, il dit pas comme ça, etc. Donc, ça a commencé à faire suer pas mal de monde et surtout, en fait, à faire une espèce de réseau, c'est-à-dire que les pèlerins qui viennent voir les recluses vont écouter la recluse Saint-Flour, ils vont dire, vont colporter à la recluse de Bordeaux que la recluse de Saint-Flour a dit ceci, cela, etc., etc. Et ça fait une espèce de petit réseau. Et ces femmes qui sont en dehors, censées être en dehors de toute société, elles vont créer un espèce de mouvement comme ça, presque indépendant de leur volonté. J'ai envie de dire, je ne pense pas qu'elles aient réfléchi à ce fait-là, mais ça va commencer vraiment à agacer. Et donc, on va souvent, on va détruire les reclusoirs au 15e et au 16e, parce que notamment ceux qui sont proches des remparts ou des églises, etc., il y a le grand mouvement donc, de Richelieu qui cherche à supprimer hein, tout ça, hein, tous ces constructions, tous ces châteaux forts, etc., pour miner les petits seigneurs locaux et qu'il n'y ait pas de rébellion. Donc, on va détruire les réclusoirs avec et puis on ne les reconstruira pas.
Oui, c'est
Et
ça.
c'est comme ça que progressivement, ça va
Ça
se
va
finir.
s'éteindre, oui.
Exactement, ça va s'éteindre un petit peu de soi-même. Le mouvement, c'est quand même poursuivi, même jusqu'à l'époque moderne, puisque j'ai trouvé une Nazarena qui était recluse au Vatican et qui est décédée en 1997.
Ah
Elle était
bon?
nonne, en fait, hein, Nazarena. Elle
D'accord.
était, alors, je ne sais plus quelle était sa congrégation, mais un beau jour, elle a décidé que d'être sœur, ça ne lui suffisait pas. Elle ne se sentait pas assez proche de Dieu, et elle s'est mise dans un reclusoir au Vatican jusqu'à sa mort en
D'accord,
97. Voilà.
1997. Ah oui, quand même.
Voilà. Donc,
Effectivement.
c'est quand même quelque chose qui peut perdurer. Alors, forcément, aujourd'hui, ce n'est pas des femmes laïques ou des femmes du peuple ou quelqu'un comme toi et moi qui va d'un coup se dire qu'il va rentrer en réclusion, quoique, pourquoi pas. Mais je pense que là, il y aurait vraiment une enquête psychologique qui serait aujourd'hui quand même faite.
Oui.
Mais oui, donc de gardienne spirituelle à un petit peu mystique, hérétique, à finalement plus rien. Voilà,
Mais
le
oui,
mouvement va s'éteindre comme ça.
de façon générale, l'Église avait quand même un œil assez méfiant sur ces mouvements de recluses et d'érémitisme aussi, hein. C'est vrai que d'avoir des ermites à l'extérieur des villes qui peuvent, enfin, on va dire que ça peut être un terreau à l'hérésie, enfin en tout cas aux yeux de l'Église, quoi. C'est vrai que du coup, c'est quand même quelque chose qui est difficile d'encadrer, mais
On
j'imagine
en a
très
un peu
bien.
parlé l'autre fois avec les béguines, et ça a été un petit peu le même système.
Oui. Ben oui, voilà, tout à fait. Bon, eh bien écoute, c'est un sujet passionnant, hein. J'espère que ça plaira à nos auditeurs. J'imagine quand même que beaucoup de gens en apprendront, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très très connu.
Non, ouais, et puis c'est vrai que même en littérature ou en culture en général, c'est pas une figure qu'on voit, et
Ben non,
pourtant
c'est ça.
ça a
Mais
été une
pourquoi?
figure majeure du Moyen Âge. Hein. Vraiment,
Et toi, c'est une
c'est
figure qui
majeur.
t'inspire pour tes romans?
Oui. Oui. Alors, effectivement, j'irai peut-être pas écrire tout un roman sur les recluses, quoique ça peut être vraiment quelque chose de passionnant. Oui, alors la recluse de Saint-Flour tient un tout petit rôle dans les Mirages de Terre Sainte. En fait, je parle d'elle puisqu'il passe par Saint-Flour. Mais oui, c'est quand même un personnage qui fait partie du décor. Je me vois pas ne pas en parler. Je me vois pas ne pas en parler. Au contraire, ça m'a touché d'en dire deux mots et de montrer que ça existait. Et c'est vrai qu'après, quand tu creuses le sujet, c'est vraiment assez passionnant de voir ces
Oui,
femmes-là, voilà,
c'est fascinant,
qui s'enterrent vivantes, en fait.
bah ouais,
C'est ça, c'est
oui.
incroyable.
C'est assez incroyable. C'est tout à fait ça. Bon, on clôt le sujet pour aujourd'hui?
Ouais, je pense que c'était assez complet.
Oui, je pense aussi. Ben écoute, un vrai plaisir de discuter avec toi sur ce
Comme
sujet.
toujours.
J'espère que nos auditeurs ont pris le même plaisir que nous. Et puis je te retrouve pour un prochain épisode.
Merci beaucoup, bonne soirée.
À très bientôt. Retrouvez toutes nos actualités en nous rejoignant sur Instagram sur les comptes Marie Lavesco, auteur, et The French Storyteller.